Les terrasses du ciel. Les grands classiques de la poésie chinoise avec les éditions Mundaren. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des terrasses du ciel. Pour la seconde émission consécutive, nous évoquons la figure de Pokuyi, d'après le livre des éditions Mundaren, Pokuyi, l'ermite du mont parfumé, un homme sans affaires. Je vais vous continuer la lecture de ce livre en essayant de marier éléments biographiques et poèmes. Nous avons quitté Pokuyi. Alors Pokuyi, c'est un poète donc qui est né en 772 à Xincheng dans le Honan d'une famille de mandarins. Il a fait de hautes études et au moment où nous le quittions, il était nommé secrétaire assistant du prince héritier. C'est un petit poste assorti d'un petit salaire avec pour seule obligation d'assister à l'aube à l'audience impériale. En même temps, Pokuyi évidemment s'intéresse à l'expérience du bouddhisme Chan, la transcription chinoise du sanskrit dhyana, contemplation, et le bouddhisme Chan résulte d'une infusion du bouddhisme indien dans la pensée taoïste chinoise Lao Tzu, et évidemment tout cela ne va pas sans la pratique de la poésie. Cependant, eh bien, nous sommes le sixième mois de 815 et le grand ministre Hu Yuanheng est assassiné dans des circonstances étranges. Le jour même, bien que cela n'entre pas dans ses attributions de secrétaire assistant du prince héritier, Pokuyi adresse un mémorandum au trône dans lequel il insiste sur l'urgence de prendre toutes les mesures nécessaires pour arrêter les assassins, un véritable risque politique. Et de fait, immédiatement, c'est une levée de bouclier contre lui, contre Pokuyi. En plus de lui reprocher son empressement intempestif, on invente de fausses accusations à son encontre. Certains, agacés par son indépendance et son refus de prendre parti pour tel ou tel clique politique, profitent de l'occasion pour jeter le discrédit sur lui et l'éloigner de la capitale. En automne 815, Pokuyi est dégradé et exilé comme attaché militaire du district de Changshou sur le long fleuve au nord du lac Poyang. Il part avec sa famille par les terres jusqu'à Qiangyang et de là en jonque, il descend le fleuve Han jusqu'au long fleuve. Bientôt, la jonque arrive dans le district de Changshou, dont Zhongyang est la capitale. Au printemps 816, Pokuyi s'installe à Songyang, aussi appelé Qiuqiang, les neuf affluents, chef-lieu du district de Changshou. Il habite au bord de la rivière Pen, un affluent du long fleuve, à 30 lis au nord du Lushan, la montagne des huttes, où sont nichés de nombreux temples bouddhismes et taoïstes, ainsi que des ermitages, et qui dominent le long fleuve et le lac Poyang. C'est à Songyang que naît la fille de Pokuyi, Lao Tse. Ses fonctions d'attaché militaire, il faut bien le dire, ne l'astreignent qu'à peu d'obligations. Le gouverneur, Sui Neng, le tient en haute estime et le traite plus en invité qu'en subordonné. Il le laisse partir en promenade dans les montagnes environnantes quand il en manifeste le désir. Pokuyi se rend souvent au Lushan, notamment au pic du Brûle-Encens. Sur le versant nord se trouve le temple de la forêt de l'Est, Tung Lin, fondé en 386 par Hui Yuan, créateur de l'école bouddhiste dite de la Terre pure, et le temple de la forêt de l'Ouest, Silin, fondé en 379. En automne 816, au pied du pic du brûlant sens, à mi-chemin entre les deux temples Tungling et Silin, Pokuyi découvre un endroit isolé qui l'enchante. Il y construit une chaumière qui est terminée au printemps 817. Et pour célébrer l'événement, il inscrit sur un rocher un poème que je vais vous lire. Au nord du pic du brûlant sens, à l'ouest du temple de la bienveillance léguée, là où brillent des cailloux d'une blancheur éclatante, au bord d'un cours d'eau limpide qui coule en murmurant, il y a là plusieurs dizaines de pins, il y a là 1000 bambous, les pins ouvrent leur ombrelle émeraude, les bambous dressent leurs beaux jades verts. Jusque-là, personne n'a habité en dessous. On peut s'en étonner. Parfois s'y rassemblent des singes et des oiseaux. Toute la journée, seul le vent et la brume. C'est alors qu'un ermite, nommé Paulotienne, qui de sa vie ne s'est jamais entiché de rien en particulier, voit cet endroit. Tout de suite, son cœur s'y attache. Comme si j'avais trouvé un coin de terre pour mes vieux jours, j'en oublie aussitôt de rentrer. Sur du roc, je construis une chaumière, taille dans une colline pour créer un jardin de thé en terrasse, avec quoi me rinçais-je les oreilles. Devant la maison, dans une rigole, coule une source, avec quoi me purifiais-je les yeux. Au pied du perron poussent des lotus blancs. Dans ma main gauche, une gourde, dans ma main droite, un kin. Mon sentiment s'épanouit fièrement, à séjourner ici en toute insouciance. Ma joie est à son comble quand je chante en regardant le ciel. Mon chant exprime ma pensée. Il dit qu'originellement je suis un homme sauvage, tombé par erreur dans les filets du monde. En d'autres temps, jadis, j'ai servi le souverain. Vieilli, aujourd'hui, je retourne dans la montagne, comme un oiseau fatigué regagnant une forêt luxuriante, un poisson assoiffé rejoignant une source limpide. À part ici, où pourrais-je donc aller? Dans le monde des hommes, les pièges sont innombrables. Un an plus tard, durant l'été 818, Pokuyi invite 22 amis, pour la plupart des moines des temples Tungling et Sinling, pour consacrer sa chaumière. À la fin de l'année 818, 3 ans après son arrivée à Chungcheong, Pokuyi est nommé gouverneur de Chongzhou, au pays de Shu, sur le long fleuve, en amont des Trois Gorges. Il quitte Chongzhou au début du printemps 819. À Hichang, sur le fleuve, il retrouve Yuan Chen, qui remonte vers le nord à Kuochou, où il vient d'être nommé. Ils passent quelques jours ensemble. C'est à Yichang que commencent les fameuses Trois Gorges, Kutang, Wu et Singling, que Pokuyi s'apprête à traverser. Au milieu de la gorge Chutang se trouve le Yen Yu, une formation d'écueils rocheux. C'est l'endroit le plus dangereux des gorges. C'est à la fin du printemps que Pokuyi arrive à Chongzhou. La plupart des habitants sont des aborigènes dont il ne parle pas la langue. Pour la première fois de sa vie, il voit des magnolias qu'il appelle des arbres à fleurs de lotus et mange des litchis. Depuis longtemps j'en entends parler, mais c'est seulement aujourd'hui que j'en cueille et en goûte. On dirait le goût du ciel. Leur parfum est différent des saveurs de ce monde. Ils sont plus luisants que les lotus dans l'eau, plus frais que les mandarines d'après le gel. Comme une perle de la couleur d'une coccinelle dans la paume, une douce rosée au bout de la langue. Au début de l'année 820, l'empereur Tiang Tsung meurt soudainement. Le nouvel empereur, Mu Tsung, fait bientôt rappeler Yuan Chen à la cour à Chang'an. Au début de l'hiver, Pokuyi est à son tour convoqué à la capitale. Adieu aux arbres et aux fleurs plantées sur le coteau à l'est. 3 années j'ai été retenu dans la ville, au bord du fleuve. Herbes et arbres, oiseaux et poissons, À tous je suis attaché, mais vers quel endroit tournais-je affectueusement ma tête? Vers le coteau à l'est, où j'ai planté pêchers et pruniers. » Pokuyi a maintenant 49 ans. On lui confère le titre de pilier supérieur de la nation et il reprend ses fonctions de rédaction des décrets impériaux. Ce poste lui donne beaucoup de travail. Il a à traiter une grande quantité de papiers officiels. Il lui arrive souvent de travailler la nuit au palais. Il achète une maison dans l'allée Tsingchang, près des murailles, à l'est de la ville. La famille Po vit maintenant dans l'aisance. Pokuyi mène une vie conviviale, joyeuse. Au début de l'année 822, Yuan Chen est nommé grand ministre. Mais 4 mois plus tard, il est évincé et nommé gouverneur de Tungchou, au nord-est de la capitale. La vie politique est en effet de plus en plus agitée, les intrigues de palais n'en finissent pas. Las de cette ambiance frelatée, Pokuyi demande sa mutation en province. À l'automne 822, il est nommé gouverneur de Hangzhou, aussi appelé Qiangtang, la prestigieuse et élégante cité de l'Est au bord du lac de l'Ouest et du fleuve Qiangtang. Avec sa famille, il quitte donc Chang'an et à bord d'une jonque descend le fleuve Han, puis le long fleuve. Voilà, nous reprendrons le cours de l'histoire de Pokuyi la semaine prochaine, dans une prochaine édition des Terrasses du Ciel. Et je vais maintenant consacrer la deuxième partie de l'émission à la lecture de poèmes. Des poèmes que, je vous le rappelle, vous pourrez lire en vous procurant ce livre Pokuyi, l'ermite du Mont Parfumé, un homme sans affaires aux éditions Mundaren. Inscrit dans la demeure au bord du torrent de Yuan le 8e. Au milieu des rangées d'arbres, une nappe de brume au-dessus du torrent, j'aperçois d'abord une balustrade au-dessus de l'eau, puis une fenêtre en montagne. Des feuilles tardives s'épanouissent encore sur les rhododendrons rouges, les capsules d'automne commencent à se former sur les nénuphars blancs, le cri d'une grue millénaire arrive jusqu'à mon oreiller. Le reflet des pics des 5 vieux tombe dans ma coupe. En plus m'émeut l'attention empressée de mon hôte à me retenir du poisson frais, du riz fin et du vin au parfum enivrant. Après le repas, je fais la sieste. Au réveil, 2 tasses de thé. Je lève la tête et regarde le soleil. Au sud-ouest, déjà, il décline. L'homme heureux regrette que la journée soit courte. L'homme soucieux déplore que l'année soit longue. Celui qui n'a ni souci ni joie, par contre, pour le long et le court, se conforme au cours des choses. Le chant du pipa, avec préface. Depuis la 10e année, Yuan Ho, je suis exilé dans le district des 9 affluents en tant qu'assistant gouverneur. En cet automne de la 11e année, accompagnant un ami à l'embouchure de la peine, dans la barque, la nuit, nous entendons quelqu'un jouer du pipa. Le son métallique a l'accent de celui que l'on entend à la capitale. J'interroge la personne. C'est une ancienne courtisane de Chang'an. Elle a étudié le pipa avec les deux maîtres, Mu et Cao. Avec l'âge, sa beauté a fané. Elle s'est confiée à un marchand. Elle est devenue sa femme. Je demande alors qu'on serve du vin. Il a pris de jouer plusieurs airs. Les mélodies terminées, attristée, elle reste silencieuse. Puis elle raconte les moments joyeux de sa jeunesse. Aujourd'hui, beauté fatiguée et errante, elle voyage sans cesse sur les fleuves et les lacs. Exilée depuis 2 ans, j'étais tranquille et content de mon sort. Ému par ses mots, ce soir, pour la première fois, j'éprouve le sentiment de l'exil. Je compose alors ce long poème et le chante en lui dédiant. En tout, 612 caractères. Il est intitulé « Le chant du pipa ». À Tsungyang, au bord du fleuve, la nuit, pour dire adieu à un ami, dans l'automne, suo-suo, bruissent les feuilles des érables et les roseaux en fleurs. L'hôte descend de cheval, mon ami est déjà dans la jonque, nous levons nos coupes, et buvons, sans flûte ni corde. Peinés par la séparation imminente, nous sommes ivres sans être gais. Au moment de l'adieu, la lune baigne dans le vaste fleuve. Soudain, on entend sur l'eau le son d'un pipa. L'hôte en oublie de rentrer, l'ami de partir vers l'endroit d'où vient le son. Discrètement, je demande qui est en train de jouer. Le son du pipa s'interrompt. Une voix veut parler, mais hésite. Nous déplaçons la jonque pour nous approcher et l'inviter à nous rencontrer. On resserre du vin, on rallume la lampe. Les agapes recommencent. Après 1000 appels, 10 000 sollicitations, elle consent à apparaître. Portant encore son pipa qui lui cache la moitié du visage, elle tourne les chevilles et effleure les cordes, 2 ou 3 notes, avant même que la mélodie ne prenne forme. Le sentiment s'est déjà installé. Chaque corde gémit, chaque note pèse, semblant raconter tous les déboires de sa vie. Elle baisse les cils, sa main continue à jouer librement, exprimant les choses au fond de son cœur. Sa main gauche presse légèrement, vibre lentement. Sa main droite descend puis remonte. Elle joue d'abord robe d'arc-en-ciel, puis taille verte. La grosse corde retentit comme la pluie battante. La petite corde est douce comme un chuchotement intime. Retentissante et douce dans le jeu se mêle, comme de grosses perles et de petites perles tombant dans une assiette de jade. Le chant flûté d'un loriot glissant sur des fleurs, une source gelée et gémissante ayant du mal à s'écouler. La source gelée, comme si la corde froide venait de se casser, semble figée, le son momentanément s'arrête. Surgissent alors toute la tristesse enfouie et le remords refoulé. À ce moment-là, le silence est plus fort que la musique d'un vase en argent qui explose soudain. Un liquide jaillit, des cavaliers en armure chargent à l'improviste, leurs épées et leurs lances résonnent. La mélodie est terminée. D'un trait, elle tire le plectre vers son cœur. Les 4 cordes sonnent comme de la soie qui se déchire. Dans les barques à l'est et les jonques à l'ouest, un même silence. au milieu du fleuve, seule la lune blanche d'automne. Songeuse, elle raccroche le plectre entre les cordes, elle arrange son vêtement et se lève, le visage grave. À l'origine, je suis une fille de la capitale. Ma famille habitait au pied du tombeau du crapaud. À 13 ans, j'ai appris le pipa. Mon nom figurait dans le groupe des meilleures musiciennes. Quand mes mélodies se terminaient, mes maîtres en restaient admiratifs. Avec mon maquillage, j'étais souvent envié par la belle dame Kiyou. Aux 5 tombeaux, les hommes jeunes pour moi rivalisaient de générosité. Pour un air, ils ne comptaient plus la soie rouge. Ils frappaient le rythme avec leurs épingles à cheveux incrustées de pierres précieuses qui se cassaient. Ma jupe en soie de couleur sang était tachée par le vin renversé. Cette année, dans la joie et les rires, l'année prochaine, il en serait de même. La lune d'automne et la brise du printemps passèrent dans l'insouciance. Mon jeune frère fut enrôlé dans l'armée. Ma mère mourut. Les soirs passaient, les matins revenaient. Mon visage vieillissait. Devant ma porte déserte, les chevaux scellés se firent rares. Vieillie, je suis devenue la femme d'un marchand. Un marchand qui n'accorde de l'importance qu'au gain et se moque de la séparation. Le mois dernier, il est parti pour Fuliang acheter du thé. Depuis son départ, à l'embouchure du fleuve, je garde la jonque solitaire. Tout autour de la jonque, la lune claire sur l'eau froide du fleuve. Au profond de la nuit, souvent, je rêve de mes années de jeunesse. Dans le rêve, je pleure. Mon maquillage rouge se répand avec mes larmes. En l'entendant jouer du pipa, déjà j'ai soupiré. En entendant maintenant ses paroles, à nouveau je soupire. Et dis, nous sommes tous deux de malheureux exilés au bord du ciel. Quand on se rencontre, pas la peine d'être d'anciennes connaissances. J'ai quitté la capitale l'année dernière. Je vis en exil, allongé et malade, dans la ville de Tsungyang. Tsungyang est un endroit reculé. Il n'y a pas de musique. Une année sans entendre le son de la soie et du bambou. J'habite au bord de la rivière Pen, dans un endroit encaissé et humide. Des roseaux jaunes et des bambous sauvages poussent autour de la maison. Au milieu de tout cela, matin et soir, qu'entends-je? Les coucous s'égosiller à cracher le sang et les gibbons crier plaintivement. Le matin sur le fleuve, les fleurs du printemps, la nuit, la lune d'automne. Souvent, en portant du vin, je vais y boire seul. Ce n'est pas qu'il n'y ait ici ni chanson montagnarde, ni flûte villageoise, mais c'est une cacophonie déplaisante à écouter. Aussi cette nuit, à entendre le langage de ton pipa, comme écoutant une musique d'immortel, mes oreilles momentanément se sont clarifiées. Ne refuse pas de t'asseoir à nouveau pour jouer un air. Pour toi, je vais écrire les paroles du chant du pipa. Émue par mes mots, elle reste longuement debout, puis elle regagne son siège et tend les cordes qui deviennent plus rapides. Le son plaintif ne ressemble pas à celui de tout à l'heure. Les convives, écoutant à nouveau, se mettent tous à pleurer en silence. De tous ceux qui sont présents, qui pleure le plus? C'est l'attaché militaire de Changchou. Sa robe bleue est imprégnée de larmes. Voilà ce très long poème, le chant du pipa. C'est avec ce chant du pipa que je tire ma révérence. Je vous retrouve la semaine prochaine pour reprendre là où nous l'avons laissé, le récit de la vie de Po Kuyi, l'un des très grands poètes de la tradition chinoise. À très bientôt.
Lately I've been searching. searching for answers. I walk around the boulevard looking for magicians. With a cold feet, black coat full of arms outstretched, and a leading voice. And I can't help but shout at the top of my lungs, saying, is next in line to get hurt? Who? Who? Is next in line to get speared? Bad mouth, bad habits, now leads icicles growing out me. Our past, I guarantee, if you stay with me, your tomorrow will be endlessly free. Don't know. Next in line to get hurt. Who? Who? Is next in line to get
this makes it hard to get past.